tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, on rediffuse Des animaux et des hommes, Le paradis des oiseaux, un documentaire d'Irvic d'Olivier réalisé par François Test. Au départ de cette série, il y a des compagnonnages qui sont comme des images d'Épinal. L'attelage de bœufs dociles et leurs bouviers au milieu des champs, le cheval et son cavalier sous les frondaisons, le chasseur à plat ventre et son terrier à l'affût, ou le berger marcheur et son chien vigilant. Mais il y a aussi des histoires de couples, de ces couples étranges et fidèles que l'on forme avec son vieux perroquet déplumé, son chien qui pue, son chat acariâtre, son lapin craintif, sa chèvre retorse ou son hérisson apprivoisé mais méfiant. Et puis les efforts partagés, les liens de dépendance et de la curiosité pour l'ingéniosité des animaux, et enfin l'envie de se faire voyeur et d'espionner la vie secrète des oiseaux. Alors pour commencer, les personnages. Une guide, des animateurs, des photographes, un enfant ornithologue, un traducteur de chants d'oiseaux, une chouette pêcheuse, une cigogne agressive, des oiseaux espiègles et des oisillons qui réclament. Ensuite, le décor. Des polders, des sentiers, des points de vue, de l'eau et des battements d'ailes, des pépiments, des roucoulades, des caquettements, des cancanements, des ululements, des claquements de bec et le vent dans les roseaux. Aujourd'hui, 4e épisode, il faut commencer par apprendre les noms.
Sarcelle d'hiver, cigogne blanche, alouette des champs, cygne tuberculé,
est-ce que le Philippe Carvette est là ?
Bouscarle de Séti,
bah, où il est.
Goéland brun, mésange charbonnière,
de France Culture.
Canard siffleur, grèbe castagneux, huîtrier pie, mouette mélanocéphale, pinson des arbres,
des oiseaux et des hommes.
Oies cendrées.
Par Irvic d'Olivier et François Test.
Chevalier Sylvain.
Je vais essayer de le joindre sur son téléphone.
Chevalier Gambette.
Voilà.
Poulque macroule.
Il est certainement, je pense, au point de vue. Donc vous passez là par le sens.
Gru cendrée.
Ça c'est pour moi.
Fuligule milouin.
La gratuité.
Merci.
Vanneau huppé.
Vous en prie, monsieur. Merci.
Et ça, c'est le vent dans les roseaux.
Où sommes-nous, Philippe Carvette ?
Alors, où sommes-nous ? On est dans le nord de la France, en baie de Somme, sur un territoire qui s'appelle le Marcantaire. Alors, le Marcantaire, c'est un parc ornithologique, mais c'est aussi un territoire géographique avec comme capitale la petite ville de Rue, R-U-E, qui a 3200 habitants. Donc, le territoire du Marcantaire, rien que le mot Marcantaire, c'est la mer qui rentre dans la terre. C'est un vieux nom français, Maroskienter. Donc c'est un territoire de polder. C'est des terres qui ont été gagnées sur la mer par l'homme dès 1194. On n'est pas un peuple de marins. Les Picards sont des paysans. Donc ils ont passé leur temps à gagner des terres sur la mer pour cultiver. Et on est sur le parc ornithologique du Marcantaire, sur un des derniers polders français qui a été fait en 1960 par Michel Janson, qui a reconverti ensuite, en 1973, ses terres agricoles en réserve privée, qui est devenue aujourd'hui un terrain du Conservatoire du Littoral et un site géré par le Conseil Général de la Somme. Donc c'est une histoire résumée en trois mots de terres gagnées sur la mer qui sont venues une zone protégée pour les oiseaux.
Fuligule morillon. Sarcelle d'été, bergeronnette grise, bergeronnette printanière, pouillot véloce, pie bavarde, linotte mélodieuse.
Philippe Carvette, vous êtes responsable pédagogique et ornithologue au parc du Marcantaire. Avant de descendre et de faire le parcours avec vous, on est sur ce qu'on appelle le point de vue. Est-ce qu'on peut décrire ce qu'il y a devant nous ?
Alors, c'est vrai que le point de vue, c'est le lieu le plus magique, je trouve. C'est la première rencontre avec le site. Ça nous permet de découvrir non seulement les 200 hectares du parc, ce qui équivaut à 200 terrains de football à peu près, mais surtout de découvrir les 7000 hectares de la baie de Somme. Et aujourd'hui, on a une lumière fantastique parce qu'on arrive à voir jusqu'à Cailloux-sur-Mer. On voit les falaises de Holt, Onival, le Bois de Cise. Après, c'est la Normandie, je ne connais plus. Et puis, il y a tout le fond de la baie avec le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme. Donc, on a un panorama un peu à 360 degrés. C'est vrai qu'on est sur un lieu particulièrement, je trouve, harmonieux parce qu'il y a une vie à la fois animale et humaine qui vit ensemble.
On écoute. Alors Philippe Carvette, qu'est-ce qu'on entend déjà là ?
Ah, c'est vrai qu'au point de vue, c'est un plaisir des yeux, mais c'est aussi un plaisir des oreilles. Parce que on entend les oies cendrées, là, les couples d'oies cendrées qui discutent entre elles, défense de territoire entre les couples. Moi, j'appelle ça aussi des messes basses. Ah, il y a un petit cri d'alerte de poule d'eau, là. Un petit cri à la fois d'alerte et de contact, de méfiance entre les couples. Il y a une cigogne qui vient de se poser sur le nid, là, ça c'est sympa. Les cigognes sont en train de couver et elles reviennent d'Afrique, hein, elles reviennent du sud de l'Espagne, du Portugal, puis surtout d'Afrique de l'Ouest, hein, du Mali, du Niger, de Mauritanie. Et ils commencent là depuis une petite quinzaine de jours leur couvaison. Hein. Donc il y a un des adultes qui est sur le nid couché, on a l'impression que c'est un poussin, mais c'est la tête qui dépasse, c'est un adulte qui couvre. Et le deuxième adulte qui est à côté, qui surveille le nid. Hein. Il y a un cri de décollage d'oies cendrées là. Les deux oies qui sont là-bas à gauche, ils lancent le cri de décollage pour le mâle. La femelle va répondre. On va attendre. Alors il faut que la femelle réponde. Si la femelle ne répond pas, le couple ne va pas décoller. Hein. Les couples sont formés pour la vie. Donc ils lancent d'abord un cri de décollage. Et voilà, ça y est, ça décolle. Madame a été d'accord, donc les deux décollent. Ça c'est sympa.
On peut peut-être commencer la balade.
On est parti, on en a pour 6 km et demi et chaque instant, chaque découverte, on va s'arrêter beaucoup parce que la vie est partout. Nord-ouest, ouais, que sud-ouest.
Alors, je m'appelle Céline Verlet, j'ai 27 ans et je suis guide naturaliste saisonnière sur le parc du Marcanterre. Alors, sur le parc, on a 3 parcours qui sont proposés au public. On en a un qui fait à peu près 1 heure de visite, donc c'est le rouge. On a le bleu qui fait 2 heures environ et le vert qui fait à peu près 3 heures. Après, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est des estimations. Parce qu'on peut passer énormément de temps sur le parc, hein. Ça peut durer très longtemps. Sinon, on a en tout 13 observatoires, plus 2 points de vue sur l'ensemble du parc. Donc 13 observatoires qui nous permettent de côtoyer des milieux naturels et donc des espèces d'oiseaux différentes à chaque fois.
Philippe Carvette, par rapport à l'équipe et la gestion, combien de personnes sur le site pour accompagner les gens ?
Alors, pour accompagner les visiteurs, vous avez 18 animateurs nature. Donc, vous avez 4 permanents. Ah, on entend la mouette mélanocéphale, on dirait un chat là. Miaou ! C'est une petite mouette avec les ailes toutes blanches, là, on l'entend bien. C'est vraiment la voix d'un chat. Hein. C'est une mouette qu'on n'avait pas dans la région avant, qui nichait au bord de la mer Caspienne, en Russie, et qui est arrivée dans l'ouest de l'Europe. Maintenant, elle niche en Angleterre, elle niche en Belgique, aux Pays-Bas, et puis elle niche en Picardie aussi. Oui, donc on a une équipe de... On a été interrompu par la mouette mélanocéphale. On a une équipe de 18 animateurs nature, donc 4 permanents, qui sont à la fois des naturalistes et des pédagogues. Ici, vous n'avez pas d'équipe scientifique, vous n'avez pas d'équipe pédagogique, c'est la même. Donc les comptages, le bagage, les inventaires sont faits par les guides nature qui transmettent ensuite le quotidien, leur quotidien, aux visiteurs. Après, les animateurs nature accompagnent les groupes scolaires, accompagnent les groupes d'adultes, font un petit peu de travail de gestion, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ils sont au quotidien sur le terrain, en permanence.
Là, on arrive.
Alors, on va arriver au poste numéro 1, où on va changer de milieu. On ne sera plus sur des zones d'eau douce, on va être sur des zones d'eau saumâtre, donc légèrement salée. Et on commence à les entendre. Là, il y a les colonies de mouettes rieuses qui nichent sur ces secteurs-là, sur les îlots. Hein. Donc les oiseaux commencent seulement à arriver pour s'installer, pour nicher. C'est le début. Donc on a un poste d'observation muni d'ouvertures qui permettent de ne pas déranger les oiseaux. Et ces postes d'observation existent depuis 1973. Donc là où il y a des postes d'observation, il ne faut surtout pas les enlever. Parce que les oiseaux, ce sont, au contraire, ils ne sont pas du tout habitués à nous voir, à nous entendre, à nous imaginer derrière ces postes d'observation. Donc c'est l'homme en cage finalement, et l'oiseau encore plus libre. On commençait à faire leur nid, là, c'est le début. On voit bien l'œil blanc. Là, il y en a quelques-unes qui sont sur les nids, donc ils commencent à couver. Là. Regardez, on n'est pas dessus, là, s'il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant pour lui.
Tu l'as pris ?
On est rat.
Bah, j'ai pris, oui, pour autant que attends, ce soit possible. Bon, voilà.
Donc les barges à quenouilles, ça fait partie de la même famille que des abocettes, hein, c'est les limicoles.
C'est
des lampasses, un très long bec aussi. Voilà, j'en ai compté 250 à peu près. Hein, si quelqu'un veut recommencer, ça serait même très très utile. Donc si vous balayez à droite à gauche, vous allez voir, il y a vraiment un paquet.
Voilà, c'est ça que je voyais tout à l'heure.
Faut que je regarde.
Ah ouais. Donc à la longue-vue, il y en a qui sont plus roux. J'en vois deux, les oiseaux qui sont en plumage nuptial. Donc à partir du mois de mars à peu près, ils ont cette couleur beaucoup plus roux, hein, presque orange. Il y a des oiseaux qui sont plus gris aussi. Donc gris, c'est l'hiver. Hein. Donc là, on est entre deux saisons. Donc on voit les deux plumages.
Il y en a 23,3.
De temps en temps, ça bouge les ailes, ça bouge.
À côté comme ça ou à côté comme ça?
À droite.
Moi, c'est Alexander. Je viens de l'Angleterre, en fait. Ça fait à peu près 5 ans que je suis en France. Et ça ne fait qu'un mois, 6 semaines que je travaille dans le parc de Marcanterre. Donc voilà, avant je travaillais dans le commerce, rien à voir avec la nature. Par contre, je suis passionné de la nature, d'oiseaux. Donc j'ai décidé de tenter ce changement de vie, voilà, pour travailler dans quelque chose que j'aime.
Pourquoi les oiseaux et pourquoi pas autre chose comme animal ?
Oui, bah c'est une bonne question. Je pense qu'il y a la question de liberté. Hein. L'oiseau qui vole, c'est quelque chose qui m'attire. Je suis aussi très intéressé par la migration. Hein. Je trouve ça incroyable que tous ces oiseaux sont capables de faire des milliers de kilomètres pour nous rejoindre ici. Et d'étudier ça, c'est quelque chose, je passe beaucoup de temps dessus, à suivre. Donc c'est ce phénomène de migration, hein, qui m'intéresse beaucoup. Il y a certaines espèces qui sont capables de faire vraiment beaucoup de kilomètres. Hein. La petite sarcelle d'été, par exemple, qui a passé l'hiver en Afrique, qui remonte au mois de mars pour nous rejoindre ici, est capable de faire jusqu'à 1000 km dans une journée. Hein. Donc c'est assez remarquable, c'est un oiseau qui vole très très vite. Il y a d'autres oiseaux qui s'arrêtent pendant plusieurs jours. Ça dépend beaucoup du climat, des conditions une météo.
Alors encore une question simple. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?
Une des raisons scientifiques, c'est la baisse de la durée du jour. En Europe, les jours commencent à diminuer. Dès fin juin, début juillet, ça déclenche le départ de nombreuses espèces. Ensuite, vous avez la raréfaction de la nourriture, les densités de nourriture diminuent. Vous avez aussi des phénomènes physiologiques, comme par exemple les testicules des mâles, après la reproduction, se résorbent. Ça ne sert à rien d'emmener des valises qui ne sont plus utilisables. Vous avez aussi l'effet de graisse, vous avez des oiseaux qui prennent de la graisse aussi pour partir en migration. Tous ces phénomènes-là, extérieurs et internes chez l'oiseau, vont déclencher les phénomènes de migration vers le sud, où l'oiseau va trouver des jours longs, va trouver une densité de nourriture normalement importante et va trouver de nouveaux habitats qu'il risque de perdre avec l'hiver chez nous, avec le gel, avec la neige. Donc ces phénomènes-là déclenchent les phénomènes de migration et l'oiseau va trouver ce que l'on appelle un site d'hivernage. Il va hiverner sur un endroit qui varie le sud de l'Europe, la France comprise, jusqu'à l'Afrique du Sud. Ce sont les oiseaux qui ont le besoin de plus de nourriture, et notamment les oiseaux insectivores qui vont le plus loin.
Est-ce qu'il y a des belles lumières là ? En fait, on ne sait pas exactement comment les oiseaux arrivent à retrouver exactement le même endroit. Mais c'est sûr qu'ils le font, parce qu'on fait beaucoup de bagages ici. Une espèce d'oiseau, un petit oiseau qui pèse à peine quelques grammes, qu'on a rebagué dans exactement le même endroit pendant 4 ans. Donc il s'appelle le rousserolle, qui passe l'hiver en Afrique, et puis qui remonte au mois d'avril, fin avril, pour nicher ici. Donc au mètre près, presque, on arrive à retrouver cet oiseau. Donc comment il fait ça, on ne sait pas totalement. Hein. C'est des oiseaux qui très souvent migrent la nuit. Donc est-ce qu'il y a un lien avec la lune, avec les étoiles ? Il y a toujours beaucoup de personnes qui étudient. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de remarquable, hein, comment ces petits oiseaux arrivent à trouver exactement le même endroit.
Oh, on entend bien un peu le vélo, ça. Super. Ça, c'est un... Oh, il est là. Et en plus, il est là. Donc là, on est à 7 grammes, 8 grammes. Puis la bouscarle qui chante derrière nous, en plus. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un des oiseaux les plus faciles à reconnaître au niveau chant. C'est deux notes. Hein. Voilà. Autrefois, dans les campagnes, on l'appelait le compteur d'écus, parce qu'on avait l'impression qu'il compte des pièces, des écus d'or, hein, tip-tiap, tip-tiap, tip-tiap. Et c'est un oiseau qui est facile à reconnaître. Quand on commence, souvent le chant des oiseaux est très difficile pour les néophytes, les visiteurs. Ils ont du mal à reconnaître les chants, parce qu'ils ont plein de chants, ils entendent plein de chants dans la nature, ils ne les différencient pas. Alors qu'il faut commencer par les chants les plus simples, comme le coucou, le pouillot véloce. Puis en plus, comme les oiseaux sont migrateurs, en hiver, ils sont partis, vous n'entendez plus leur chant. Mais l'oiseau fait pareil, hein. Quand il revient de migration, il retrouve son chant. Et il commence à chanter mal, il fait un peu des fausses notes, puis après, petit à petit, son chant devient plus juste. Et nous, notre oreille s'habitue de nouveau au chant que l'on entend. Alors c'est marrant parce que les Anglais l'appellent Chiff-Chaff, les Allemands Zilbzalp, et nous on l'a appelé Pouillot Véloce, un nom compliqué parce que finalement tous les pouillots sont véloces, hein. Ils sont tous hyper rapides, ils sont tous hyper speed, alors que souvent les noms étrangers des oiseaux sont plus simples, ils sont plus sur des onomatopées ou sur la couleur de l'oiseau.
Donc là, on arrive au
poste 4, qui est un plan d'eau aussi d'eau saumâtre, avec mais d'une grande surface.
Comme moment fort, pour moi, c'est une espèce d'oiseau très emblématique du parc, c'est l'avocette, un oiseau qui est migrateur, qui arrive au mois de mars. Et puis qui commence fin mars à parader. Donc ça, c'est vraiment quelque chose spectaculaire. Chez tous les oiseaux, c'est pas forcément pareil, hein, mais chez l'avocette, la parade est vraiment sympathique. Hein. Il s'agit d'une petite danse, le mâle qui contourne la femelle, qui reste complètement figé par l'eau. Et puis ça finit avec un petit croisement de bec, hein, presque comme un bisou. Donc ça, pour montrer aux visiteurs, c'est un moment qui est très spécial.
Voilà, il y a un couple mort. Alors restez dessus parce qu'il y aura un petit bisou final. Ils vont se croiser le bec à la fin. Voilà, il y a un petit bisou. Et ils se séparent ensuite.
Puis il y avait deux petits grèbes, je crois.
Des grèbes huppés, ouais.
Non, mais deux petits.
Il y en a un gros, plus petit. Il y a un garou là-bas. Ah, super, il y a un mâle de garou.
Oh
ouais, il y a un jeune mâle de garou.
C'est
il est là-bas à gauche.
Mâle de garou.
Ouais, il n'est pas reparti. Ça commence à faire tard. On a construit, on voit des nichoirs à garou. Sur la lombine avec une cache claire derrière les grèbes à droite.
Alors là, on se dirige vers l'observatoire numéro 11. C'est là où on a les cigognes qui viennent régulièrement se nourrir, donc de petits amphibiens dans une petite mare. On a beaucoup de poules d'eau aussi qui fréquentent le bassin, des canards, canards siffleurs, canards souchés, canards colverts. Et il y a quelques jours, au retour du coucou, on avait un couple qui se posait sur des piquets de clôture l'un après l'autre, et on a pu bien observer le coucou posé sur un piquet de clôture. Donc avec les visiteurs, c'était assez sympa.
Alors ici, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, exceptionnellement, on a sur le chemin de visite un cygne chanteur qui a sagement fait son nid, absolument pas dérangé des visiteurs.
En plein milieu de la route ?
En plein milieu du chemin. Donc les visiteurs passent à même pas un mètre de ce cygne et il est pas du tout dérangé par la présence humaine. Donc ça c'est parce que les oiseaux savent sur le parc qu'il y a une attitude de l'homme envers l'animal qui est complètement différente de ce qu'on pourrait retrouver en dehors du parc. Donc il y a une confiance qui s'instaure entre l'homme et l'animal. Et
on va quand même passer sur le côté.
On va quand même passer sur le côté, on va quand même respecter une distance d'intimité.
Et alors, comment on devient guide nature ?
Par passion, je pense, en tout premier lieu. Enfin, moi, personnellement, ça a été vraiment un bien-être ressenti au sein de la nature et en solitaire. Une déconnexion, en fait, du monde humain. Qui m'a fait du bien et qui m'a fait m'intéresser à tout ce qui m'entourait, finalement. Et j'ai essayé d'observer, de comprendre ce qu'il y avait autour de moi. Donc, dans le petit fossé derrière chez moi, quand j'étais petite, où je passais énormément de temps à accueillir des personnages, à me fondre dans la nature et à observer ce qu'il y avait autour. Parce qu'une fois qu'on est fondu dans la nature et immobile, bah les oiseaux nous oublient et les lapins nous oublient. Et c'est comme ça qu'une fois, il y a un lièvre qui m'est passé au-dessus de l'épaule. Il a utilisé mon épaule en fait pour rebondir au-dessus du fossé. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et voilà, c'est des petits moments improbables qu'on vit et qu'on ressent beaucoup et qui nous, bah, qui finalement nous font tracer un chemin sur cette vibration-là. Ah, la bouscarle de Seti qui se manifeste, qui a un chant qui ressemble à la petite chanson « Tiens, voilà du boudin ». Donc c'est notre moyen mnémotechnique à nous pour la retenir. Et c'est vrai que c'est un tout petit oiseau qui chante très très fort. Donc voilà, on va rentrer dans le poste 11.
Que nous dit le chant des oiseaux ?
Alors on peut être un traducteur entre guillemets du chant des oiseaux. On va dire, quand on parle de chant, ça a deux raisons principales. Quand vous levez le matin et que vous entendez les oiseaux chanter, généralement ils sont levés un petit peu avant vous, et ils se lèvent tôt pour marquer leur territoire. Dès que l'oiseau se lève, en période de reproduction, en période de nidification, le chant veut dire que le territoire est occupé par un mâle chanteur et qu'il s'adresse aux autres mâles des alentours pour montrer que le territoire est occupé. Alors il y a d'autres territoires à côté, mais il y a aussi pas mal de mâles célibataires. Ils attendent qu'une chose, c'est que le mâle qui a un bon territoire, quand il se réveille, il ne soit plus là. Soit mangé par un prédateur, soit mort d'une raison ou d'une autre. Donc s'il n'y a pas de chant sur les territoires, le territoire est libre et un mâle célibataire aux alentours peut occuper le territoire. Ensuite, c'est attirer une femelle sur le territoire pour constituer une famille. Et la femelle va visiter le territoire, va voir si le chant est attractif, si la nourriture est disponible, et dans ces cas-là, elle occupera ce territoire-là, ou celui du voisin, si le voisin est plus intéressant. Il y a d'autres oiseaux qui utilisent les couleurs, qui utilisent certains comportements, ce qu'on appelle les parades nuptiales. Tout ça, c'est se montrer, on est là, et c'est la période de nidification. En hiver, les oiseaux ne chantent pas, il y a très peu d'espèces qui sont territoriales en hiver. Alors il y en a un qui est territorial, qui est très connu, qui est dans votre jardin, c'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge est territorial toute l'année. Vous verrez que dans votre jardin, même l'hiver, vous voyez qu'un seul rouge-gorge. Dès qu'il y en a un autre qui arrive, il se fait virer. Et comme ils sont territoriaux, les rouges-gorges, toute l'année, mâles et femelles chantent. La femelle a un chant aussi. On a entendu les oies passer, là, il y a les oies cendrées, le couple d'oies cendrées qui est passé. Et ce cri-là, c'était un cri d'accompagnement du vol entre le mâle et la femelle. Ce n'est pas une défense de territoire, c'est montrer on est ensemble, et on reste ensemble, et on ne se perdra pas. Donc c'est des cris à la fois de contact, d'encouragement entre les couples, et puis c'est un lien, le cri c'est aussi un lien entre les partenaires, surtout sur des oiseaux comme les oies, dont les couples sont formés pour de nombreuses années, voire pour toute une vie.
Petite foulque macroule. Il y en a deux, donc ces petites pintades noires grisâtres, un peu avec le front et le bec blanc, qui se nourrissent dans l'eau, donc de végétaux aquatiques. C'est une cousine de la poule d'eau, hein, donc c'est facile à repérer. Donc là, c'est facile pour faire de la photographie le matin parce qu'on a le soleil qui est derrière l'observatoire et qui donne directement sur la petite mare. Donc on a une très bonne lumière, très douce. Donc en général, on balaye quand on arrive dans un observatoire à la jumelle. On regarde un peu tout ce qu'il y a. Donc c'est une pie bavarde, hein. On voyait bien le blanc. On ne voyait pas le noir. La pie bavarde a un plumage blanc et noir. Avec des très beaux reflets. Voilà, elle s'est envolée.
Écoutez, je m'appelle Philippe Sirio, photographe amateur, voilà. Je prends essayer de prendre les spatules en photo. J'étais venu une première fois, mais mon appareil photo n'avait pas marché, donc je me suis dit que je voulais revenir. Donc, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est la liberté des oiseaux et puis tout ce qui est équipement au niveau observatoire. Ça permet de prendre des oiseaux sans les déranger, et puis en les voyant relativement assez près, donc c'est plutôt riche comme façon de présenter la faune. C'est, je trouve ça intéressant. Je fais beaucoup de photos avec en affût. J'ai un affût en toile là, et voilà, je fais particulièrement de temps, 2 à 3 heures de temps, parfois même plus, pour faire des photos en affût. Avec les observatoires, ça fait un peu comme ça, fait des affûts comme j'ai d'habitude, quoi. Quand je fais de l'affût, en général, j'aime beaucoup lire, donc j'amène souvent de la lecture avec moi. Et je comble la solitude en même temps en lisant. Quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une part de solitude dans la démarche, c'est certain.
J'adore me fondre dans la nature et me sentir seule, et finalement pas vraiment seule, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de nous qui nous entoure. Et c'est juste magique quoi, de voir qu'on peut se trouver bien avec un environnement qui nous est pas forcément familier d'ailleurs. On peut se retrouver bien juste parmi des plantes et des papillons qui nous entourent, qui disent rien, qui sont silencieux. Et peut-être qu'on adopte ce comportement pour mieux comprendre et se mettre à ce niveau-là. C'est plus un ressenti en fait. Hein. La solitude dans la nature, c'est beaucoup vivre le ressenti. C'est vivre des émotions, je pense qu'on ne peut pas vivre entre humains.
Il y a la beauté de voir des oiseaux. Il y a aussi un monde qui n'est pas toujours accessible, parce que c'est vrai qu'on ne côtoie pas forcément toujours des spatules à proximité de chez soi. Donc il y a un côté aussi merveilleux. Bon, et c'est une part d'enfance un peu qu'on retrouve dans cette observation des oiseaux.
Est-ce que les oiseaux nous apprennent des choses ?
Ben oui, d'abord à être patient si on veut les observer, parce que comme je vous disais précédemment, si on veut voir des oiseaux un peu différents des oiseaux habituels qu'on peut voir, il faut être patient, il faut prendre le temps, voilà, et ça apprend en tout cas la patience, oui. Et puis je dirais aussi peut-être respecter un environnement, à être vigilant parfois à la façon dont on se comporte avec la nature, ça nous apprend ça aussi, hein. Il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui disparaissent de plus en plus. Je lisais récemment des articles comme quoi il y avait 30% par exemple de certains oiseaux qui disparaissaient en Loire, par exemple au bord de la Loire. Et donc ça nous oblige aussi à être vigilants à comment on respecte l'environnement. C'était loin.
Petit oiseau qui fait autant de variations de notes, autant de diversité. Ben on me voit là, les gens ils sont petits sourcils clairs. Et on a du mal à le voir parce qu'il a la couleur des roseaux. Il a la même couleur que les roseaux. Donc il a la même couleur que les roseaux et il porte le même nom que les roseaux. Puisque le terme scientifique du roseau, le terme normal, c'est le phragmite. Donc l'oiseau porte le nom du végétal où il vit. Voilà, là il.
C'est un carnet d'observation. Donc on va à chaque fois quand on rentre dans un observatoire le matin, donc observer à la jumelle tout ce qu'on a et essayer de faire un petit recensement. Donc au niveau des effectifs et au niveau de la diversité des espèces, pour voir un petit peu ce qu'on a, à quel endroit et en quelle proportion. Alors concrètement, j'avais noté 96 avocates élégantes au poste 2 avant-hier matin. Et ce petit carnet me sert aussi à noter les bagues. Parce que c'est bien beau de baguer des oiseaux, après il faut encore savoir récupérer les données, c'est ça qui est le plus important dans le bagage, pour permettre de compléter les fiches d'identité des oiseaux. Donc là par exemple, j'ai noté donc hier une spatule au poste 3, un adulte. Donc, qui était bagué LN, Cet individu apparemment niche depuis 2003 sur le parc. Donc c'est une petite habituée du parc du Marcanterre. Et hier, j'ai rencontré des visiteurs habitués du parc, Armel et Jean-Claude. Donc je leur ai dit que j'avais vu cette spatule LN, sur le poste 3. Et ils étaient tous contents de savoir, parce que c'était la première donnée de cette spatule sur le parc cette année. Donc ils se demandaient ce qu'elle était devenue. Bah voilà, elle existe encore et elle est toujours sur le parc. Et puis après, on a eu une avocette au poste 5 aussi. Donc une petite avocette élégante, en accouplement. Donc on a pu voir que c'était un mâle, qui elle avait une bague rouge et une bague blanche à la patte gauche, et à la patte droite une bague blanche. Donc avec un X sur la bague blanche de la patte gauche. Donc c'est tout des codes couleurs, des lettres, des chiffres que mettent les bagueurs pour les repérer, et chaque oiseau a ses propres bagues, donc c'est vraiment spécifique à l'oiseau, quoi.
Vous avez plusieurs carnets ?
Bah ouais, j'en ai plusieurs, hein. J'ai une collection de carnets chez moi, de carnets de terrain qui ont traîné dans la vase, dans l'herbe, qui ont traîné dans, dans des seaux d'eau. C'est pas terrible, mais ça laisse de bons souvenirs.
Poste numéro 3.
On va aller voir s'il y a des groupes de spatules qui stationnent. C'est ma collègue Céline qui est dans le poste. Ah bon, il y a plein de spatules.
S'il y a quelqu'un qui bouge chez moi, c'est jamais lui. Lui, les prions étaient sur moi.
Monsieur,
oui,
si, il y a des spatules.
Oui, il y a des spatules blanches, des peaux adultes. Hein. Avec un beau plumage nuptial, elles sont belles. Hein.
Ouais, tu reconnais pas ces deux spatules?
Ah si, comment ça tu reconnais pas?
Tiens. Tu vois même pas leur bec?
Elles n'ont pas de plumes sous le cou.
Comment tu vas pas là, mec? Mec, regarde tout le marron là, tout noir.
Philippe Carouette, comment décrire le caractère des oiseaux?
Alors, c'est vrai que chez les oiseaux, on parle d'espèces au niveau scientifique. Et on se rend compte, quand on est sur le terrain tous les jours, que bien sûr, chaque espèce a des caractères différents, des exigences, des comportements différents, ce qu'on appelle l'éthologie. Mais si on regarde plus en détail, chaque individu est différent. Sans faire de rapprochement avec l'humain, c'est pareil pour nous. Donc, vous avez un groupe de colverts qui est posé, eh bien, vous allez avoir des oiseaux un peu plus hardis que d'autres dominants, d'autres dominés, d'autres plus, j'allais dire, espiègles, qui vont chercher des territoires un peu nouveaux, d'autres qui auront des comportements particuliers. Nous, on voit, c'est ce qu'on appelle la spécialisation, un oiseau qui va se spécialiser dans un régime alimentaire qui n'est pas le sien. J'avais vu une fois une chouette effraie qui capturait des poissons. Une chouette qui est pêcheuse en Europe, c'est assez étonnant, quoi.
Si je vous dis 1557.
Ah, 1557, ça c'est un numéro de bague du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et c'est une des plus vieilles cigognes du site. Elle doit avoir 16-17 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le 1557?
Alors, 1557, c'est un oiseau qui a niché sur le parc et qui a perdu pas mal de femelles, parce que au début, on le voyait posé sur les nids, et on se disait, tiens, c'est jamais la même femelle. Et on s'est rendu compte que c'est un oiseau qui était justement assez agressif. Quand le couple commençait à construire le nid, eh bien, on s'est rendu compte que le mâle était agressif sur la femelle et lui donnait des coups de bec. Donc la femelle partait, et puis après, une nouvelle revenait, et il y avait ce même comportement. Est-ce que c'était un mâle extrêmement territorial jusqu'au point de virer la femelle sur le nid? Là aussi, c'est après nous, on fait des interprétations, on analyse. L'interprétation n'est peut-être pas exacte, mais l'important, c'est d'analyser, d'interpréter, parce que nos suivants, les naturalistes suivants, peut-être qu'eux, ils auront la bonne réponse. Au niveau du comportement des oiseaux, il y a eu récemment une observation assez remarquable d'un cinéaste animalier. Alors ça s'est pas passé en Europe, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, à Auckland, d'un héron en train de pêcher. Et on s'est rendu compte que ce héron profitait du pain que jetaient les visiteurs du plan d'eau pour nourrir les poissons. Vous voyez, les visiteurs jetaient des morceaux de pain sur l'eau. Le héron prenait un morceau de pain dans son bec. Il s'envolait, il allait le poser un peu plus loin, il attendait que le poisson arrive et il le harponnait. Et on l'a vu faire plusieurs fois. Là, ça, c'est une histoire, on me l'aurait raconté, j'aurais eu des doutes. Et puis là, le voir à l'image, c'est assez étonnant parce que le héron a observé l'homme, qui n'est pas son espèce, bien entendu,
et a observé un comportement. Il a fait le lien entre, dans son cerveau, entre le pain et entre le poisson. Donc ça, c'est des choses aussi nouvelles que l'on apprend. Ça a fait un petit remue-ménage dans le monde éthologique et dans le monde du comportement. Parce qu'on parle bien d'une tête de linotte, d'un cerveau d'oiseau. Et on se rend compte que l'oiseau, finalement, l'individu est différent. Chaque individu sont différents et que ça réfléchit quand même. Ça, il se passe quelque chose dans le cerveau différent de nous. Et moi, je compare jamais l'homme et l'oiseau ou l'homme et l'animal. Mais il se passe des choses et c'est à nous d'avoir l'esprit suffisamment large pour comprendre tout ça. C'est la diversité, tout simplement.
Est-ce que l'observation des oiseaux vous a appris quelque chose sur vous-même ?
C'est intime comme question. ça m'a révélé à moi-même parce que je savais que j'étais quelqu'un de très calme et de très observatrice de mon environnement. Et le fait d'observer les oiseaux, ça m'a appris que même chez les oiseaux, il y a ce comportement-là aussi. Donc finalement, on se retrouve quelque part chez les oiseaux. Alors moi, c'est mon comportement qui m'a permis de visualiser la même chose chez les oiseaux. J'imagine qu'une personne un peu plus nerveuse va retrouver un comportement un peu plus nerveux chez un autre oiseau. C'est comme ça aussi qu'on a nos petites préférences chez les oiseaux. Moi, j'aime beaucoup le biauro gris, le petit rond très discret qui sort que la nuit, qui est actif que la nuit. Donc peut-être parce que je me retrouve en fait dans cet oiseau. Donc finalement peut-être qu'effectivement on apprend sur nous-mêmes en observant les oiseaux et en ayant des préférences chez certaines espèces, ouais, c'est possible.
Un oiseau préféré ? Ah oui, les pics. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pics, mais il y a différents pics là, notamment le pic épêche, le pic vert, le pic noir. C'est vraiment des oiseaux que je trouve assez extraordinaires. Et puis je dirais aussi le martin pêcheur, je ne sais pas si vous connaissez le martin pêcheur, mais il y a des coloris qui sont plutôt des coloris qu'on voit plutôt, c'est des oiseaux exotiques, plus que je pars chez nous, et je trouve ça, c'est très joli, c'est très joli.
Philippe Carvette, fin du parcours.
Fin du parcours, et puis on est à 40 mètres de la forêt de pins où nichent les hérons cendrés, les spatules, les aigrettes. On est à une distance où on ne dérange absolument pas les oiseaux et où c'est assez génial parce qu'on entend toute cette ambiance nuptiale, ces gloussements notamment d'aigrettes. Là, c'est pas très harmonieux, c'est étrange, mais ce sont finalement des chants d'amour, les mâles d'aigrettes qui gloussent pour appeler les femelles. Ah, on a entendu un coq faisant là aussi qui s'est mis à chanter. Donc c'est toute une ambiance d'une héronnière en période de nidification. Et c'est une héronnière assez remarquable. C'est une des plus belles héronnières de France, avec celle de Scamandre en Camargue, avec celle du lac de Grandlieu en Loire-Atlantique, puisqu'on a 6 espèces de grands échassiers qui nichent dans cette pinède, dans cette forêt de pins. Les cigognes, les spatules, les aigrettes, les hérons garde-bœufs, les hérons cendrés. Et un petit héron nocturne qu'on a entendu un petit peu là avec ses couac-couac, le héron biauro. Ah, un héron cendré qui arrive là. Hop. Alors chez les hérons, les poussins sont déjà nés. Par contre, chez les autres espèces, on est en pleine période de couvaison ou de construction de nids. Une cigogne qui arrive avec des branches dans le bec, là, des grandes branches dans le bec. Ah, elle ne va pas dans l'aéronière, elle va juste à côté, sur une autre partie de la forêt de pins, où il y a un nid qui est un petit peu isolé. Voilà, écoutez. Claquement de bec, alors un claquement de bec très très sourd, pas celui où on est habitué à entendre, très violent, qui indique que le nid est attaqué par une autre cigogne. Là, c'est un claquement de partenaire, l'accueil du partenaire. Un est en train de couver, l'autre vient au nid avec une branche, ils se disent bonjour, ils s'accueillent, et là le claquement de bec est très sourd, pas très agressif, hein, finalement, pas très puissant, puisque c'est un claquement de bec d'accueil. Alors que d'habitude, quand vous allez en Alsace, en Charente-Maritime, les personnes sont très marquées par ces claquements de bec très violents. C'est souvent dû au fait que les oiseaux défendent leur nid contre les autres cigognes.
Parce qu'en fait, les cigognes ne peuvent pas chanter.
C'est vrai que les cigognes ont un syrinx. Hein. Chez les oiseaux, on parle de syrinx, hein. On ne parle pas de larynx comme chez nous. Eh bien, leur syrinx est très très peu développé. Donc ils émettent des tout petits ronflements à peine audibles. Donc le meilleur moyen de s'exprimer, de montrer, parce que les cris que l'on entend autour de nous, là, c'est des moyens de s'affirmer, de défendre un territoire, d'attirer une femelle. Eh bien, chez la cigogne, elle claque du bec, on dit qu'elle craquette ou qu'elle claquette. Hein. Les petits hérons cendrés, alors c'est pas facile à entendre, c'est vite. C'est vraiment réclamer la nourriture aux parents. Si les poussins de hérons, mais tous les poussins d'oiseaux ne réclament pas, ils ne seront pas nourris. Hein. Il faut qu'ils motivent les parents pour les nourrir. Dans un nid d'hirondelle, par exemple, ou un nid de maison chez vous, dans votre jardin, vous voyez les petits quémandés appelés. C'est un moyen de s'affirmer et de réclamer la nourriture. Dans une couvée de 5 petites hirondelles, une ne réclame pas la nourriture, elle ne sera pas nourrie par les parents et elle va mourir de faim. Donc quand ils ouvrent le bec ou quand ils crient, ça motive les parents pour voir qu'ils sont prêts à être nourris. Ah, il y a un piquet-pêche qui passe en vol, un noir et blanc qui vient de sortir de la forêt de pins. Il y a accouplement de cigognes, là, juste au-dessus de nous. Oh, super. On entend des tout petits claquements de bec sec. Ces petits claquements, on les entend souvent au moment de l'accouplement. Ou quand il y a un danger aussi. Hein, quand il y a un danger en dessous du nid, il y a des petits claquements de bec sec. Là, c'est un couple de cigognes qui est tout en haut, qui vient juste d'arriver de migration. Les parents, les deux adultes sont pas bagués. Là. Voilà, voilà le claquement de bec des cigognes. Vous voyez que là, il est puissant, parce qu'il y en a une qui passe au-dessus. Un danger potentiel, les deux claquent du bec. Hein. Il faut montrer que le nid est occupé. Si cet oiseau qui est au-dessus est un oiseau qui arrive de migration, qui arrive d'Afrique, il cherche un nid. Hein. S'il a un nid, il aura un partenaire. Donc la meilleure façon de trouver un nid au départ, avant d'en construire un, c'est essayer d'en piquer un chez le voisin. Voilà, il y a un autre couple qui répond là-bas, qui défend aussi son nid. Bien du bec là. Parce que les trois sont en train de se rapprocher d'un nid. Donc là, vraiment, on a un claquement de bec puissant, écartement des ailes de l'adulte pour se faire plus gros, pour à la fois allier le côté visuel et le côté auditif. Ça peut être parfois violent. Moi, j'ai vu des nids attaqués par des oiseaux en migration où les oiseaux étaient couverts de sang. Ça peut aller jusqu'à des jeunes qui sont tués. On a eu une fois sur la réserve un couple de cigognes. Arrivé très tard en migration, pas de nid. Il est arrivé mi-mai et il a tué des jeunes dans un nid pour essayer de voler le nid, hein, pour essayer de prendre le nid. Les parents sont arrivés trop tard et les jeunes avaient été tués par ce couple qui cherchait à prendre un nid.
Philippe Caruette, on a pu bien sûr vous observer tout au long de ce parcours. On a vu votre amour pour les oiseaux, mais qu'en est-il de l'homme ? Il reste de la place ?
Chacun a sa place, chacun doit avoir une place. Alors, bien entendu, l'homme a besoin de la nature, c'est une évidence. Mais j'ai tendance à dire que la nature a besoin de l'homme parce qu'il est là. Donc, on doit... un développement est lié à une harmonie. Si la nature régresse, l'homme sera perdant. Mais j'allais dire que si l'homme régresse, économiquement, moralement, la nature sera perdante aussi et lui sera perdant aussi. Donc on est dans un voyage ensemble qu'on doit toujours continuer. Un voyage, c'est ça qui est génial dans un voyage, c'est que ça doit jamais se finir. Et là, en observation de la nature, le voyage se finit jamais parce que chaque saison est différente, chaque ambiance est différente. Il y a le héron garde-bleu qui s'est posé au-dessus. Là. C'est assez génial. Là. Avec la tête rousse. Alors c'est un oiseau qui est extrêmement commun dans le sud de la France, en Camargue, puis sur la côte atlantique, en Brenne, en Vendée. Chez nous, il est relativement rare, parce qu'on est en limite nord, avec les marais d'Archie en Belgique, de répartition de l'espèce. Le héron garde-bœuf, c'était à l'origine un oiseau africain, qui est devenu méditerranéen, dans les années 60, hein, et qui aujourd'hui remonte vers le nord avec les changements climatiques. Ça peut être avec les chasses, avec une multitude d'espèces d'oiseaux, un très bon indicateur des changements climatiques. Il y a souvent une expression qui dit que plus on aime les animaux, moins on aime les hommes. Bien, c'est une erreur fondamentale, parce que on doit apprendre à vivre ensemble. La protection de la nature, c'est apprendre à vivre ensemble. Pas à côté, pas en dehors, ensemble, en même temps. Et en baie de Somme, justement, on veut montrer que la nature et l'homme sont ensemble, mais pour longtemps, pas le développement durable. Il y a le mot développement, mais il y a durable. On doit continuer le chemin ensemble.
L'accès au parc.
C'était des oiseaux et des hommes avec Céline Verlet, Philippe Siriot, Alexander Riley et Philippe Caruette. Attachée d'émission, Christine Gage. Productrice coordinatrice, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Irvic d'Olivier et François Test pour Sur les Docks.
Sky is full of black and screaming leaves. The sky is full of black and screaming, and one more bird, then one more bird, and one last bird. And another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be, turns around in hopes to find the place it last knew rest. Blackbird over black rain burn. This is not where you last knew rest. You fly all night to sleep on stone, the heartless rest that in the morn be gone. You fly all night to sleep on stone, to return to the tree with too many birds, too many birds, too many birds.
Pouillot, spatule, mouette, martin pêcheur et poule d'eau, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et si vous voulez nidifier, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la migration ou nous réécouter sur la branche, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment on vit à l'ombre du nucléaire.